Chapitre 62. Ardis. Le ciel tombait toujours lorsque l'après-midi laissa la place au crépuscule. Ada, qui s'était hâtée de gagner la grande pelouse du domaine pour observer les sanglantes traînées dans le ciel, leur passage s'accompagnait de bangs supersoniques résonnant au-dessus de la vallée et des collines boisées, restait comme figée sur place tandis qu'invités et disciples pris de panique renversaient les tables et couraient vers le pavillon Fax, impatients de prendre la fuite. Odysseus vint la rejoindre, et ils restèrent tous deux sur l'herbe, formant un îlot d'immobilité au sein d'une mer de chaos.
« Qu'est-ce que c'est ?» murmura Ada. « Que se passe-t-il »
Il n'y avait jamais moins d'une douzaine de traînées de feu dans le ciel, et les météores se montraient parfois si abondants qu'on les aurait crus sur le point d'occulter les nues.
« Je n'en suis pas sûr, » répondit le barbare.
« Est-ce que ça a un rapport avec sa vie ?» Arman et Daïman ?
Le barbu en tunique se tourna vers elle.
Peut-être.
La plupart des traînées disparaissaient sans laisser de traces. Mais l'une d'elles, plus intense que les autres, et en outre parfaitement audible, produisant un son évoquant un millier d'ongles crissant sur une vitre, acheva sa course à l'horizon est, produisant un bouquet de feu en expansion rapide. Une minute plus tard, retentissait un bruit assourdissant. Bien plus violent, bien plus horrible que ce crissement d'ongles, une vibration à vous emporter les dents de sagesse, suivie d'un vent qui effeuilla l'antique orme et renversa la plupart des tentes érigées dans le pré, un peu plus loin que le coude de l'allée. Ada s'accrocha au puissant avant-bras d'Odysseus, avec une telle force qu'elle fit couler le sang, sans qu'elle le remarque ni qu'il dise quoi que ce soit.
« Tu veux rentrer ?» demanda-t-il finalement.
« Non. »
Ils passèrent une heure de plus à observer le spectacle. La plupart des invités avaient fui, fonçant à toutes jambes sur la route quand ils ne trouvaient ni droski, ni cabriolet, ni voynix pour les transporter. Mais 70 disciples environ étaient restés, rassemblés autour d'Ada et d'Odysseus sur la pelouse en pente douce. D'autres objets vinrent s'écraser dans les environs, le dernier avec encore plus de violence que le premier. Toutes les fenêtres de la façade nord du château d'Ardis explosèrent et il plut des éclats de verre dans la lumière mourante du soir.
« Heureusement qu'Anna est en sécurité à l'infirmerie, » dit Ada.
Odysseus la fixa sans rien dire. À l'heure du coucher, le dénommé Pétir sortit du château et leur apprit que les serviteurs étaient en panne.
« Que veux-tu dire ? En panne ?»
demanda Ada.
« En panne !» répéta Pétir. « Ils sont couchés par terre !» Ils ne marchent plus. Ils sont cassés.
Ridicule, fit Ada. Les serviteurs ne se cassent pas.
Bien que l'obscurité naissante rendît l'averse météorique encore plus lumineuse, elle lui tourna le dos pour se diriger vers le château, Odysseus et Pétir sur les talons, évitant de marcher sur les débris de verre et de plâtre. Deux serviteurs gisaient dans la cuisine, un autre dans une chambre de l'étage. Leur communicateur était muet. Leurs manipulateurs flasques, leurs petites mains gantées de blanc inertes. Ils ne réagissaient ni aux ordres, ni aux gifles, ni aux coups de pied. Les trois humains ressortirent et trouvèrent deux autres serviteurs allongés sur l'herbe.
« As-tu déjà vu un serviteur tomber en panne ?» demanda Odysseus.
« Jamais !» répondit Ada.
D'autres disciples se joignirent à eux.
« Est-ce la fin du monde ?»
demanda la dénommée Péaenne, sans que l'on puisse dire à qui elle s'adressait. Ce fut Odysseus qui finit par lui répondre au sein du vacarme céleste.
« Cela dépend de ce qui tombe », déclara-t-il en pointant son doigt puissant sur les anneaux E et P, à peine visibles derrière le feu d'artifice météorique. « S'il ne s'agit que d'accélérateurs géants et autres machines quantiques, nous devrions y survivre. S'il s'agit de l'un des quatre astéroïdes principaux où vivaient jadis les postes, « eh bien, cela signifie peut-être la fin du monde. Du moins tel que nous le connaissons. »«
Qu'est-ce qu'un astéroïde ?» demanda Pétir, toujours curieux.
Odysseus ne lui répondit que par un mouvement de la tête.
« Quand serons-nous fixés ?» s'enquit Ada.
Le vieil homme barbu poussa un soupir.
« Dans quelques heures. Demain soir ou plus tard. »
Jamais je n'aurais cru que le monde prendrait fin, dit Ada. Et jamais je n'ai imaginé qu'il périrait par le feu.
Au contraire, répliqua Odysseus. S'il doit périr, ce sera par la glace. »
Tous le fixèrent du regard.
« On appelle cela l'hiver nucléaire, »
expliqua le grec dans un murmure.
« Si l'un de ces astéroïdes, voire un morceau suffisamment gros, tombe sur Terre ou dans l'océan, cela projettera une telle quantité de débris dans l'atmosphère que la température baissera en quelques heures d'une trentaine de degrés. Peut-être davantage. Les cieux s'empliront de nuées. Il se mettra à pleuvoir et ensuite à neiger, et cela durera des mois, des années, peut-être même des siècles. La serre tropicale à laquelle vous vous êtes habitué durant les 1500 dernières années deviendra le domaine des glaciers. »
Un petit météore déchira les cieux au nord, s'abîmant quelque part dans la forêt. L'air sentait le brûler et Ada voyait de la fumée au loin dans toutes les directions. Elle songea durant une seconde à quel point ce monde lui était inconnu. Que trouvait-on dans la forêt au nord du domaine d'Ardis? Jamais elle ne s'était éloignée de plus de quelques kilomètres du château, ni d'un Eufax quelconque, et elle était toujours escortée d'un ou de plusieurs Voynix.
« Où sont les Voynix ?» demanda-t-elle soudain.
Personne ne le savait. Ada et Odysseus firent le tour du château, jetèrent un coup d'œil dans les champs, les allées et les prés environnants, là où les Voynix montaient la garde en temps ordinaire. Ils n'en trouvèrent aucun. Parmi les disciples encore présents, personne ne se rappelait en avoir vu depuis le début de l'averse météorique, voire un peu avant.
« Tu as enfin réussi à les faire fuir ?»
lança Ada à Odysseus sur le ton de la plaisanterie. Il secoua la tête d'un air sombre.
C'est grave.
Je croyais que tu n'aimais pas les Voynix. Tu en as découpé un en deux le jour de ton arrivée ici.
Ils mijotent quelque chose, déclara Odysseus. Peut-être que leur heure est enfin venue.
Hein?
Rien, Ada hurle.
Il lui prit la main et la tapota doucement. Comme un père, se dit Ada, qui, étonné par sa réaction stupide, se mit à pleurer. Elle ne cessait de penser à Arman, à la colère et à l'embarras qu'elle avait ressenti lorsqu'il lui avait dit souhaiter qu'elle le choisisse comme père de son enfant, désirant en outre que l'enfant en question sache qui était son père. Cette idée, qui lui avait paru si absurde, voire obscène, lui semblait à présent des plus raisonnables. Agrippant la main d'Odysseus, elle pleura à chaudes larmes.
« Regardez !» s'écria Péaenne.
Un météore nettement moins brillant que les autres fondait sur Ardis, mais en suivant un angle moins accentué que ses semblables. Lui aussi traînait derrière lui un sillage de feu sur fond de ciel enténébré, le soleil s'était enfin couché, mais celui-ci semblait fait de flammes normales plutôt que de plasma surchauffé. L'objet lumineux décrivit un cercle, puis sembla choir comme une pierre, s'écrasant avec un bruit sourd derrière les arbres plantés en haut de la crête.
« Il est tombé tout près !»
dit Ada le cœur battant.
« Ce n'était pas un météore, » dit Odysseus. « Reste ici. Je vais aller voir ça de plus près. »«
Je t'accompagne, »
dit Ada. Voyant que le barbu allait protester, elle se contenta d'ajouter
« Cette terre est mienne. »
Ils gravirent le flanc de la colline dans une obscurité grandissante, sous un ciel encore parcouru de flammes silencieuses. Les flammes et la fumée étaient visibles derrière la rangée d'arbres, à deux pas du pré, mais Ada et Odysseus n'eurent pas besoin d'aller jusque-là. Ada fut la première à les voir. Deux hommes barbus, émaciés, qui se dirigeaient vers eux. Le premier était nu, sa peau luisait faiblement à la lueur du crépuscule, ses côtes étaient visibles à 15 mètres de distance, et il semblait porter dans ses bras un enfant vêtu de bleu. Le second, tout aussi barbu et tout aussi squelettique, était vêtu d'une combinaison qu'Ada identifia tout de suite comme une thermopeau verte, couverte d'une telle couche de sang et de crasse qu'on distinguait à peine sa couleur. Le bras droit de cet homme pendait à son flanc, la paume tournée vers l'avant, et sa main et son poignet nu étaient rouges de sang. Les deux compagnons tremblaient sur leurs jambes, faisant des efforts méritoires pour ne pas s'effondrer. Odysseus commença à sortir son épée de son fourreau.
« Non !»
s'écria Ada en l'obligeant à la rengainer.
« Non ! C'est Arman ! C'est Daemon !»
Elle courut vers eux à travers les hautes herbes. Arman se mit à tituber comme elle s'approchait de lui, et Odysseus se précipita vers lui pour le soulager de son fardeau alors qu'il tombait dans l'herbe. Daemon, lui aussi, se retrouva sur les genoux.
« C'est Anna !»
dit Odysseus. Il allongea la jeune femme sur le sol et lui palpa la gorge pour lui prendre le pouls.
Anna ?
Répéta Ada. Cette femme n'avait ni cheveux ni sourcils, mais les yeux qui la fixaient sous ses paupières battantes étaient bien ceux d'Anna.
Salut, Ada,
fit la jeune fille étendue sur l'herbe. Ada mit un genou à terre et se pencha sur Armane, l'aidant à rouler sur le dos. Il s'efforça de lui adresser un sourire. Le visage de son amant était tuméfié et sillonné d'estafilades, ses joues et son front maculés de sang séché. Il avait les yeux cernés, la peau blême, les joues caves et mangées de barbe. Frissonnant de fièvre, il leva vers elle des yeux brûlants. Ses dents claquèrent lorsqu'il prit la parole.
« Tout va bien, Ada. Bon Dieu, comme je suis content de te voir. »
Daemon était encore plus mal en point. En voyant ces deux hommes meurtris, ensanglantés, émaciés, Ada avait peine à croire qu'il s'agissait de ses deux amis qu'elle avait quittés à peine un mois plus tôt. Elle passa un bras sous celui de Daemon pour l'empêcher de tomber face contre terre. Il vacilla sur ses genoux.
« Où est sa vie ?»
demanda Odysseus. Armane secoua la tête d'un air triste. Il semblait trop épuisé pour parler.
« Caliban, » dit Daemon.
En entendant sa voix, Ada crut qu'il avait vieilli de 20 ans. Le plus gros de la tempête météorique était passé, les impacts les plus violents et les plus enflammés s'étant déplacés vers l'est. Quelques douzaines de traînées filaient encore d'ouest en est, évoquant davantage le rendez-vous annuel des Perséides que le cataclysme survenu un peu plus tôt.
« Ramenons-les au château, » dit Odysseus.
Il se leva, soulevant Anna sans le moindre effort, et offrit son épaule droite à Daemon en guise de soutien. Ada aida Armane à se redresser sur ses genoux, puis sur ses pieds, lui passant le bras gauche sous les aisselles, et l'aidant à descendre en direction des lumières du château d'Ardis, où les disciples d'Odysseus et les amis d'Ada avaient allumé des bougies.
« Ce bras m'a l'air salement amoché, »
dit Odysseus à Daemon tandis qu'il descendait, portant une Anna désormais inconsciente.
« Dès qu'on sera à la lumière, je découperai la thermopompe pour regarder ça de plus près. »
De sa main libre, Ada palpa doucement le bras sanguinolent de Daemon qui poussa un gémissement et faillit s'évanouir. Seule l'épaule d'Odysseus et la main droite d'Ada, qui se porta au creux de ses reins, réussirent à le maintenir debout. Les yeux du jeune homme papillonnèrent durant plusieurs secondes, puis il s'ébroua, sourit à Ada et se remit en marche.
« Vous êtes grièvement blessés tous les deux !»
déclara-t-elle se sentant au bord des larmes pour la deuxième fois de la soirée.
« Il faudrait vous faxer à l'infirmerie. »
À son grand étonnement, les deux hommes s'esclaffèrent, d'abord de façon hésitante, douloureuse même, semblant succomber à une quinte de toux plutôt qu'à un accès d'hilarité, puis, partant d'un rire pur, de plus en plus tonitruant, de plus en plus libérateur, jusqu'à ce que ces deux épaves velues paraissent se griser d'un amusement réservé à elles seules.